voie de service, mercredi 24 janvier. Bonjour tout le monde. Alors, cette fois-ci, je m'étais bien préparée. J'avais demandé à mes coéquipiers quelle date. Puis
mais
là, c'est le jour de la semaine qui
m'inquiète.
C'est toujours le mercredi. Alors, ben, bonjour Daniel Lachance.
Bonjour.
Bonjour Serge.
Bonjour.
Serge.
Bonjour.
Voyons, Bradet. Caroline, c'est peut-être, je sais pas, petite journée.
Le froid.
Petite nuit, voilà. Alors, et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler, Daniel?
Eh bien, je vais vous parler d'un duo très connu au Québec maintenant, les deux frères.
Oui.
Première partie. Et en deuxième partie, un fils illégitime de Tom Jones qui serait un peu désespéré.
Oh, désespéré. Oui. Et de votre côté, Serge?
Oui, je vais vous parler, moi, des grandes percées musicales, médicales, percées médicales.
Pas tout à fait la même chose.
Non, pas du tout. Du fin 19e, début 20e siècle. C'est dans la presse du 31 décembre. Et également, si je vous parle, le Big Bang, théorie de la relativité, structure de l'ADN, ce sont des choses dont vous avez entendu parler. Ce sont des théories qui ont bouleversé notre vision du monde.
Ah, vraiment intéressant. Ouais. Mm-hmm. Et moi, je vais être beaucoup plus terre à terre. Je vais vous parler de l'apparition au Canada, selon Samian ou Samian, je ne sais jamais comment le prononcer, et de décolonisation de l'enseignement au cégep. Mm-hmm. Et on se plonge tout de suite dans l'histoire avec Serge.
Mm-hmm. Alors, c'est un article dans la presse du 31 décembre d'Étienne Plamondon et Mont, d'une collaboration spéciale, des théories qui ont bouleversé notre vision du monde. Que leur découverte traite de l'infiniment petit ou de l'incroyablement grand, ces scientifiques ont, depuis le début du 20e siècle, fait avancer la connaissance et modifié notre vision du monde. La structure de l'atome. J'ai vraiment appris ça. C'est à l'Université McGill, à Montréal, que le physicien d'origine néo-zélandaise, Ernest Rutherford, réalise ses premiers travaux majeurs entre 1898 et 1907.
Ah oui.
Oui, il y découvre les rayons alpha et bêta, mais surtout la désintégration de l'atome radioactif et sa transformation en un atome d'un autre élément. Avec ses découvertes, il se voit décerner le prix Nobel de chimie en 1908.
Quand même!
Oui, celui qui est considéré comme le père de la physique nucléaire, ni plus ni moins, poursuit ensuite ses recherches à l'Université de Manchester en Grande-Bretagne. En 1911, ses observations, après avoir bombardé une feuille d'or de particules alpha, lui permettent de déterminer la structure de l'atome un peu à l'image d'un système solaire microscopique. Un noyau avec une charge positive, entouré de vide et d'électrons de charge négative en orbite. C'est un peu scientifique. Le modèle, bien loin de celui de l'atome indivisible qui circulait à l'époque, bouscule la vision de l'infiniment petit. Ensuite, la théorie de la relativité.
Einstein.
Le temps est relatif, démontre Albert Einstein dès 1905 avec sa théorie de la relativité restreinte. Il prouve également que rien n'est plus rapide que la vitesse de la lumière, qui s'avère constante. Quelques mois plus tard, il conçoit la célèbre formule
E égale MC2.
Oui, exactement.
On est allé au secondaire.
Oui.
On l'a refait.
Cette équation révèle que la matière peut se convertir en énergie, ce qui explique aussi bien la radiation produite par l'uranium que la combustion des étoiles. Elle ouvre aussi la voie vers la conception, des décennies beaucoup plus tard, de la bombe atomique, que ce militant pacifiste déplorera. En 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale. Il y postule que la matière et l'énergie déforme et courbe l'espace-temps pour expliquer la gravitation. Selon son principe, la lumière peut aussi être déviée, ce que l'observation d'une éclipse solaire vient confirmer en 1919. La dérive des continents.
Ah oui.
Ouais. Alors, les continents sont-ils à la dérive? Interroge le titre d'un article de la presse du 20 février 1926. Consultant à ce sujet plusieurs scientifiques, le débat a été lancé quelques années plus tôt par Alfred Wegener. Dans un livre publié en 1915, il observait la présence de minéraux, de fossiles et de faunes similaires dans des endroits séparés par les océans. Sa conclusion, tous les continents n'en formaient qu'un, qui s'appelait la Pangée, avant de se détacher et de s'éloigner les uns des autres. Évidemment, ce n'était pas hier. Quelques millions d'années, milliards d'années. Wegener peine en revanche à trouver des causes crédibles au phénomène et son hypothèse est taillée en pièces. Sa théorie est toutefois réhabilitée au cours des années 60 seulement. L'observation des fonds marins mène à la découverte de la tectonique des plaques qui explique que l'activité volcanique, les tremblements de terre et la dérive des continents. Le Big Bang.
Oui, ça.
On remonte encore plus loin.
Oui. Tout l'univers tel qu'on le connaît aurait été comprimé de façon à tenir dans une main. Aïe, aïe. Avant d'exploser.
Grosse main.
Oui. Avant d'exploser et d'amorcer une expansion fulgurante. L'abbé belge Georges Lemaître émet le premier cette hypothèse à la fin des années 20. À la même époque, l'astronome Edwin Hubble constate que les galaxies s'éloignent les unes des autres. En 1948, le physicien russe Georges Gamow fixe la conception moderne de cet événement originel. Le terme « Big Bang » est d'abord utilisé par Fred Hoyle, un détracteur de la théorie, avant de s'imposer. Au milieu des années 60, les radioélectriciens Arnaud Penzias et Robert Wilson confirme la thèse en captant un étrange bruit de fond. Il s'agit du rayonnement fossile, soit l'écho du Big Bang, nous parvenant depuis les limites de l'univers, comme l'avait anticipé Gamow.
Ça voyage moins vite que la lumière.
Un peu.
Mais c'est vraiment intéressant de penser que c'est quelqu'un qui dénigrait la théorie, probablement qui disait Big Bang sur un ton condescendant, puis c'est resté le terme qui est utilisé aujourd'hui.
Oui, mais ça arrive souvent, des choses comme ça. Quand une découverte arrive, tu sais, il y a les gens qui tentent de démolir ça. Les changements climatiques.
Ah oui, ben ça,
mais imaginez-vous, Svante Arrhenius, pardon, reçoit le prix Nobel de chimie en 1900. Vous connaissez? Un de nos amis.
Je ne suis pas capable de le prononcer, moi non plus, mais je le connais.
Arrhenius reçoit le prix Nobel de chimie en 1903 pour sa découverte des ions par l'étude de substances chimiques conductrices d'électricité. Néanmoins, le nom du physicien et chimiste suédois est aussi associé à ses calculs au sujet du réchauffement de la planète qui prennent aujourd'hui des allures presque prophétiques. En 1896, il estime que si la quantité de dioxyde de carbone venait à doubler dans l'atmosphère en raison de l'activité humaine, elle générerait une hausse des températures de 4 à 6 degrés. Sur sa première page du 15 août 1923, la presse rapporte aussi les inquiétudes de Svante Arrhenius au sujet de l'épuisement des combustibles fossiles, surtout le charbon, si sa consommation continue de croître au même rythme.
Incroyable. Au début du 20e siècle, on savait que...
La structure de l'ADN. En 1900, ça a vraiment...
C'est plus récent.
Mais révolutionné.
Oui, mais ça a révolutionné les recherches médicales. Oui.
Et policières aussi. Parce qu'on arrive à repérer, à retrouver des criminels.
Oui.
Ils ont gardé tout en dossier, en éprouvette, même 20 ans, je pense. Récemment, je pense que c'était une vingtaine d'années.
Oui, tout à fait.
En 1953, James Watson et Francis Crick découvrent la structure de l'acide... désoxyribonucléique, l'ADN, c'est plus simple de dire ça. La molécule contenant l'ensemble du bagage génétique. À l'aide de clichés de l'ADN obtenus par diffraction de rayons X, pris par la biophysicienne Rosalind Franklin, les deux jeunes chercheurs de l'Université Cambridge au Royaume-Uni réussissent à en dessiner un modèle. L'ADN ressemble à un escalier en colimaçon. Il est constitué de deux brins torsadés, rattachés par des barreaux formés de bases azotées, les nucléotides. Cette image concorde avec le phénomène de la réplication des gènes produite dans la diffusion cellulaire. Les deux hélices peuvent se détacher pour constituer chacun de leur côté un autre brin complémentaire et reproduire la molécule. Cette découverte confirme que l'ADN constitue la clé de l'hérédité et propulse la biologie moléculaire. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier?
Le
boson de Higgs?
Ah ben oui, le fameux boson de Higgs.
Là, j'avoue que c'est le plus...
C'est plus abstrait un peu. Hein?
Oui. Le 4 juillet 2012, l'existence du boson de Higgs est prouvée après des expériences au grand collisionneur de Hadron, le plus grand accélérateur de particules construit par le Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, à Genève. L'émission Découverte a fait un reportage sur ça. On voyait cette installation-là.
C'est impressionnant.
Ouais. Ce n'est pas tant le boson que sa désintégration qui est observée. La démarche a nécessité 20 ans de travail. Il faut le faire. Hein. Elle confirme la prédiction faite en 1964 par Peter Higgs, François Engert et Robert Brood de l'existence de cette particule élémentaire, aussi surnommée « particule de Dieu », qui aurait donné aux autres particules leur masse peu de temps après le début de l'univers. Ce boson demeurait jusque-là le chaînon manquant de la physique des particules, qui s'attarde aux éléments subatomiques. « Je n'aurais jamais espéré voir cela de mon vivant », a déclaré Peter Higgs lors de l'événement.
C'est vrai que c'est impressionnant qu'il était encore, oui.
Mais moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Quand on me fait quelque chose,
j'ai rien suivi
vois...
de ce que vous m'avez dit. Il va falloir que j'aille voir des dessins sur Internet.
Moi, ça me prend une image. Tu sais,
c'est un rapport avec le Big Bang.
Mais c'est gentil d'avoir essayé de nous l'expliquer.
Enfin, oui, c'est ça.
Merci. Et Daniel, quelle musique allez-vous mettre dans nos oreilles maintenant?
Mais je vais vous parler des deux frères ce matin. Vous avez sûrement déjà entendu...
Pas parce qu'ils sont morts toujours, j'espère?
Non, okay, pas du tout. J'espère que non. ça m'aurait échappé. Un article est paru dans la presse d'hier, qui était hier le 23 janvier.
Okay? Merci
exercice
beaucoup,
de se replacer dans le temps. Donc, l'article est intitulé « Deux frères, le making of d'un succès ». Et c'est écrit par Émilie Côté. Comme avant, de deux frères vient d'établir un record de 21 semaines comme numéro un des chansons francophones les plus jouées par les radios du Québec. Le duo devrait bientôt recevoir un disque d'or pour son deuxième album, La Route. En musique, le succès est une science inexacte. Quand les astres s'alignent, c'est néanmoins à la suite de beaucoup de travail et de décisions stratégiques. Portrait du succès de deux frères avec Martin Véronneau de la boîte Local 9, qui assure la promotion radio du groupe de Sonny et Eric Caouette. Quand Mario Pelcha, vous connaissez Mario Pelcha? Patron de l'étiquette MP3 Disque, a appelé Martin Véronneau pour lui confier la promotion radio du premier extrait d'un duo appelé « Deux frères », le patron de la boîte locale 9 ne se doutait pas qu'il s'agissait d'une mine d'or. Il trouvait le projet intéressant, sans plus. Par le passé, il avait poussé des chansons de Marie-Mé, Marc Dupré et de Jonathan Pinchot, pour ne nommer que ceux-ci. L'extrait « Le démon du midi » a été dévoilé en janvier 2014. « C'est quoi et énergie ont mordu à l'hameçon ». A suivi l'extrait « Maudite promesse », une ballade qui a plutôt plu à Rouge et à Rythme FM. Les gars avaient fait 6 ans de tournée de bar partout au Québec. Il y avait déjà un gros fanbase. Notre angle stratégique a été de séduire les régions d'abord, explique Martin Véronneau. Il a toutefois fallu attendre l'extrait « Nous autres » pour que deux frères aient un numéro 1 pendant 7 semaines consécutives. « Là, j'étais convaincu », raconte l'agent de promotion. Vous avez sûrement déjà entendu « Nous autres ». D'après moi, c'est celle qui a joué le plus.
Probablement.
À leur début, Eric et Sonny Caouette ont notamment eu l'aide de Stéphane Dussault dans l'écriture de leurs chansons. À la suggestion de Mario Pelcha, ils ont ensuite rencontré Steve Marin, à qui on doit les paroles et la musique de « Nous autres ». Aujourd'hui, on le nomme « le troisième frère », indique Martin Véronneau. Il a teinté le premier album, mais encore plus le deuxième. Il y a toujours un troisième ou un cinquième ou un cinquième
oui,
Beatle, sixième Rolling Stone, un troisième. Je sais pas pourquoi
c'est
ça.
C'est comme les trois mousquetaires.
Ouais,
hein?
C'est pour montrer qu'il y a toujours du monde de l'extérieur qui vient donner un bon coup de main. Le tandem a donné des spectacles d'envergure, notamment au Francofolie et au Gala Célébration. Martin Véronneau a aussi convaincu Mario Pelcha de confier la première partie de ses spectacles à deux frères. Cela permettait aux gars de jouer dans des salles aux meilleures conditions devant un public qui achète des albums. Finalement, Deux Frères a donné environ 175 spectacles pour son premier album, Nous Autres. Avouez que comme promotion, ça aide un peu. Martin Véronneau dit avoir joué un rôle de diplomate et de lobbyiste pour convaincre la disque de confier une prestation à Deux Frères à son gala de 2016. Le duo y a remporté 3 Félix, dont celui de groupe de l'année. Des journalistes ont alors affirmé que la musique de Deux Frères était dépassée. Notre chroniqueuse, Nathalie Petrovski, est d'ailleurs allée en débattre avec Martin Véronneau à l'émission de radio Médium Large. Si l'intelligentsia montréalaise ne veut pas recevoir un projet, je ne peux pas me battre contre cela, a dit Martin Véronneau. Mais les gars sont tellement friendly qu'ils sont devenus amis avec un paquet d'artistes. Ils ont un grand charisme.
Et voilà.
Quand Mario Pelcha a décidé que la musique de Deux Frères ne serait pas sur les services d'écoute en ligne comme Spotify, Martin Véronneau n'était pas d'accord. Aujourd'hui, dans l'industrie de la musique, il faut être partout où les gens sont. Pour 90% des artistes, c'est impossible de faire de l'argent avec les ventes d'albums. C'est pas la première fois qu'on entend parler dernièrement. Or, Mario Pelcha avait raison et Nous Autres s'est écoulé à plus de 120 000 exemplaires. Sorti en novembre dernier, La Route passera bientôt le cap des 40 000 exemplaires vendus. Des ventes inespérées dans le contexte actuel de l'industrie. Pour un groupe qui est dépassé, c'est quand même pas si mal, on s'entend.
Effectivement.
Près de 47 000 personnes aiment par ailleurs la page Facebook du groupe. Cela fait partie de la stratégie, mais c'est naturel pour Sonny et Eric de commenter et de partager. Deux Frères est-il malgré tout l'exception à la règle? Martin Véronneau souligne que Mario Pelcha investit beaucoup dans la mise en marché. Et mettre de l'argent, ce n'est pas la tendance dans l'industrie. Pour ce qui est du succès radio de l'extrait « Comme avant », numéro 1 du top 100 BDS depuis plus de 21 semaines, un record, il y a aussi du travail en coulisses. Martin Véronneau voulait déloger « Recommencer tout à zéro » de William Deslauriers, qui était jusque-là la chanson francophone la plus jouée par les radios du Québec. Or, quand Eric et Sonny Caouette ont annoncé sur les ondes de C'est quoi, juste avant Noël, que le sommet allait être leur prochain extrait, le directeur musical de C'est quoi, Guy Brouillard, a voulu immédiatement faire jouer la chanson. C'était trop tôt pour Martin Véronneau. Il s'est donc assuré auprès du directeur musical Jean-Pascal Lemelin que Rouge et Énergie allaient continuer de faire jouer comme avant. Depuis vendredi dernier, c'est mission accomplie pour le record. Prochaine mission de Martin Véronneau, faire d'au sommet la chanson de l'année au gala de la disque, rien de moins.
Ses yeux doux pis ses mots d'esprit. Ça fait un bout de temps que tu veux aller vers lui. Il paraît que ça va se passer vendredi. Comme des flammes, vous danserez jusqu'à l'aube. Ta beauté, l'amour de ta vie, elle te reviendra comme une éclaircie. Tu la reverras ce vendredi, comme des âmes qui volent l'une vers l'autre. Oh, tu le retrouveras au sommet. dit-il oui, quelques jours avant qu'il se revoie au paradis. De nouveau ensemble, dans les bras l'un de l'autre. Oh, tu le retrouveras au sommet le plus haut du monde. C'était ça votre destin, tu l'avais vraiment choisi.
Daniel nous l'avait présenté, plus récent extrait de Deux frères au sommet.
Ça reste en tête, ça oui. met de la joie dans le cœur. C'est dommage que je ne puisse pas aller l'écouter sur Google Play puisqu'ils ne sont pas sur cette plateforme.
Ah, il faut acheter le CD.
Ouais, mais j'ai pas de machin pour écouter des CD chez moi. Je n'écoute de la musique que sur ma tablette. Alors, fermons la parenthèse. Je vais vous parler de, je vous l'avais promis, de décoloniser l'enseignement. Des profs de cégep veulent décoloniser l'enseignement. C'est un article, un texte de Laurence Niuzzi paru sur le site Ici Radio-Canada et c'était le 5 janvier dernier. Et si on décolonisait les salles de classe? Dans les dernières années, de plus en plus d'initiatives émergent dans les cégeps pour enseigner la matière différemment, en incluant davantage des perspectives et des pédagogies autochtones. Collège Vanier, Montréal, jour de tempête. Ah tiens, ça nous rappelle quelque chose. Ça pourrait être n'importe quand depuis le début de l'hiver. Une trentaine d'enseignants sont réunis dans une salle de cours pour un exercice de couverture, à mi-chemin entre un cours d'histoire et une séance de thérapie. Je vous en avais déjà parlé sur nos ondes de ce fameux exercice de couverture. On va nous l'expliquer un peu plus. Donc, debout sur les couvertures qui représentent l'île de la Tortue, l'Amérique du Nord, le groupe se met à la place d'Autochtones qui se font déposséder graduellement de leurs terres. Et à la fin de l'exercice, chacun des participants se trouve isolé sur un tout petit bout de couverture semblable à un îlot. L'exercice couvre 500 ans d'histoire de colonialisme et d'assimilation forcée. La travailleuse communautaire Till... Excusez-moi. C'est pas le nom, là. C'est vraiment ma gorge qui s'est étouffée toute seule. Alors, la travailleuse communautaire Tilly Kassini-Sax, normandin, qui assure l'animation, se promène entre les participants, leur faisant lire des citations de personnages autochtones. À la fin de l'exercice, les membres du groupe reniflent, sortent leurs mouchoirs pour essuyer une larme qui s'échappe. L'épisode sur les pensionnats en particulier éveille de vives émotions. Outil de sensibilisation, l'exercice de couverture est offert depuis une vingtaine d'années par l'organisme humanitaire Kairos à des étudiants, des enseignants, mais aussi à des corps policiers. À Vanier, c'est le professeur d'anthropologie Jackie Valley qui organise la formation, donnée une fois par session, sur une base volontaire, à quelques dizaines d'enseignants. L'objectif de la formation, mieux équiper les professeurs pour enseigner leurs matières respectives, que ce soit l'histoire, l'anglais ou l'anthropologie, et leur permettre d'incorporer ces connaissances dans leurs cours. L'exercice est d'autant plus pertinent que Jackie Valley travaille aussi sur un programme en études autochtones qui devrait être lancé l'automne prochain. On ne veut pas que les professeurs ou les étudiants aient une mentalité de « white savior », de « sauveur blanc », quand ils prennent ou enseignent des cours sur les Autochtones. Souvent, c'est ce qui arrive. Au collège John Abbott, à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'extrême ouest de l'île de Montréal, la décolonisation est déjà entamée. L'institution, qui accueille un grand nombre d'étudiants autochtones, offre depuis 25 ans des programmes et des services aux Autochtones en collaboration avec les commissions scolaires CRI et CATIVIC. L'enseignante en lettres Debbie Lunny, L-U-N-N-Y, a toutefois récemment décidé d'aller plus loin. Elle a formé, à l'automne 2016, avec 6 autres enseignants, le groupe de recherche Decolonizing Pedagogy, décoloniser la pédagogie. En partant du constat que l'histoire n'est pas neutre, le groupe s'est donné comme objectif de changer certaines pratiques d'enseignement eurocentriques, L'automne dernier, les enseignants ont publié un rapport de 1000 pages. Non, excusez-moi, 100 pages.
Oui, c'est lourd un peu.
Un rapport de 100 pages qui inclut notamment des concepts expliqués, une bibliographie et une filmographie autochtone. Tous des outils qui peuvent être appliqués en cours. Debbie Loney a déjà intégré certaines de ces pratiques dans son enseignement. Dans son cours sur la colonisation, elle a notamment remplacé les conversations en groupe par des séances d'écriture. Nous nous sommes rendus compte que les étudiants non autochtones pouvaient dire des choses qui pouvaient heurter les sensibilités des étudiants autochtones. Ce que les étudiants non autochtones savent des autochtones, ils l'ont vu à l'école ou dans les films d'Hollywood. Pour eux, les autochtones sont quelque chose du passé, dit-elle. Citant la nouvelle administration libérale à Ottawa et la Commission de vérité et réconciliation, la plupart des enseignants s'entendent pour dire qu'ils profitent ces jours-ci d'un contexte politique favorable à ce genre d'initiative de décolonisation. Il y a 10 ans, on se faisait dire « c'est beau vos projets, mais sans plus. On devait quêter des sous », affirme Jackie Valley. Les enseignants obtiennent ainsi plus facilement des fonds de dégrèvement pour se consacrer à diverses tâches liées à la décolonisation, comme la mise sur pied d'ateliers pédagogiques ou bien pour inviter régulièrement des conférenciers autochtones. La Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a recueilli pendant six ans les témoignages sur les sévices subis par les anciens élèves des pensionnats autochtones et qui a remis son rapport final en décembre 2015, a servi en quelque sorte de catalyseur pour certaines de ces initiatives. À John Abbott, les enseignants ont voulu s'inspirer des quelques 100 recommandations de la Commission, qui suggèrent notamment un enseignement obligatoire sur les pensionnats autochtones dans les écoles primaires et secondaires, sans attendre que le gouvernement fédéral les applique. 8 cégeps québécois, anglophones et francophones ont en outre signé le Protocole sur l'éducation des autochtones, l'initiative des collèges et instituts du Canada, inspirée de la Commission de vérité et réconciliation, vise à mieux répondre aux besoins des étudiants métis, Premières Nations et Inuits. Et c'est ce qui met fin à cette première partie de notre émission. On vous revient après quelques messages et un peu de musique.
It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
C'était Tom Jones avec It's Not Unusual. J'imagine que c'est pas la première fois que vous l'entendiez.
Ça me disait vaguement quelque chose.
Ouais, hein? Mais ça fait quand même, ça date quand même, je pense que c'est 1965 ou quelque chose comme ça, non? Et Tom Jones, hier, je suis tombé sur un article dans Le Figaro qui m'a attiré mon attention un peu. L'article a pour titre « À la rue et désespéré, le fils illégitime de Tom Jones souhaite rencontrer son père ». Ce qui m'a ébranlé un peu, c'est le fils illégitime, j'imagine.
Il doit en avoir quelques-uns. Qui... Ouais,
mais bon, un de ceux qui se sont manifestés. John Jones, l'enfant naturel de la star internationale, demande à pouvoir discuter avec son père avant qu'il ne soit trop tard. Jonathan Berkery vit aujourd'hui dans la détresse et tente lui aussi une carrière de musicien, jusqu'ici infructueuse. Tom Jones, 77 ans et interprète du célèbre tube Sex Bomb, a de notoriété publique toujours assumé aimer les femmes de manière immodérée. Sa réputation de mari volage n'est d'ailleurs plus à faire. Enfant d'une famille galloise, il se fait connaître dans les années 60 et 70, notamment grâce à son titre « It's not unusual » qu'on vient d'entendre en 1965. Et en 1971, c'est son morceau « She's a Lady » qui fait le tour du monde. Au début des années 2000, son « Sex Bomb » en collaboration avec l'Allemand Mousse T devient un tube instantanément. Ces dernières années, il revient sur le devant de la scène avec sa participation à l'émission The Voice UK, UK pour United Kingdom, Royaume-Uni. Mais le passé du chanteur le rattrape aujourd'hui. Marié durant 6 décennies à la même femme, Linda Trenchard, quand même 6 décennies, c'est un bail.
Il s'est marié jeune?
Probablement, ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'effectivement. Mais infidèle, il multiplie les relations extra-conjugales. Dans les années 1980, il rencontre la top modèle Catherine Berkery. La jeune femme tombe enceinte. En 1988, naît Jonathan Berkery, mais Tom Jones se refuse à reconnaître cet enfant comme le sien. Il y sera cependant contraint, avec les preuves, d'un test d'ADN. On en a parlé tantôt.
Oui.
Il sera contraint à verser une pension alimentaire de 2 000 $ mensuels, autant dire une somme négligeable pour celui dont la fortune est estimée à plusieurs millions de dollars. Il déclarera plus tard avoir été piégé. Je ne sais pas de quelle façon on peut être piégé. Là,
parce qu'il était dans son sommeil.
Je ne sais pas.
Par les plans diaboliques.
On a abusé de lui. Je ne sais pas trop. Cet enfant illégitime refait aujourd'hui surface. Dans un article publié par le journal britannique Le Daily Mail lundi, la journaliste Annette Whiteridge dresse le portrait de Jonathan Berkery, alias John Jones. Résident dans le New Jersey aux États-Unis, le jeune homme de 29 ans se trouve dans une situation économique telle qu'il est acculé à dormir dans un centre d'hébergement d'urgence. Artiste sans le sou et enchaînant les boulots précaires, il se produit sur scène sous le nom de John Jones. Jamais Jonathan n'a pu rencontrer en face à face son père biologique. Le Daily Mail précise « Il n'a jamais reçu de coup de téléphone, un cadeau de Noël ou une carte pour son anniversaire. » Mais depuis que l'épouse de Tom Jones est morte en 2016, le fils caché espère pouvoir enfin avoir une véritable discussion avec son paternel. « J'aimerais lui parler de choses banales comme « Quelle a été ta vie toutes ces années? » Je pense que ça, on l'a vu un
ça,
peu dans les journaux quand même.
Un peu, mais oui.
Bon, il doit avoir quelques réponses. Il voudrait pouvoir le voir avant qu'il ne soit trop tard. Sa vie n'a pas été un tapis de roses. Un temps membre d'un boys band, il en sortit car il ne supportait pas être perçu comme le fils d'eux. Ça doit être quand même terrible. Mmh. T'es le fils d'eux, mais tu ne l'as jamais rencontré.
Mmh. Ouais, j'avoue.
Hein. Ça, ce bout-là, ouais. C'est un peu... Plus tard, il fut même arrêté pour possession de drogue et transféré d'une prison vers un centre de désintoxication. Il y a quelques mois, il a écrit une lettre à son demi-frère Mark dans l'espoir qu'il accède à sa demande de rencontrer enfin leur père. J'ai pensé que maintenant que son épouse est morte, je pourrais le voir. Il vieillit et pourrait tomber malade. Je ne veux pas d'aide pour ma carrière ou des choses de ce genre. Je veux juste rencontrer mon père avant qu'il ne soit trop tard. Sans réponse de son demi-frère, Jonathan Berkery espère que l'article du Daily Mail fera accéder Tom Jones à ses requêtes.
travailler. On retourne encore dans le passé maintenant avec Serge.
Oui, dans l'histoire médicale. Les grandes percées médicales du siècle dernier, de nombreuses découvertes médicales ont fait reculer, voire disparaître, des maladies autrefois mortelles. Alors, rappel de quelques-unes d'entre elles, dont certaines sont attribuables à des chercheurs canadiens. Mm-hmm. Un article d'Étienne Plamondon et mon collaboration spéciale dans la Presse Plus du 31 décembre. D'ailleurs, beaucoup des grandes découvertes qui ont été faites au 20e siècle, on permet à l'humanité de progresser. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, effectivement. Ouais.
C'est-à-dire que c'est la fin du 19e puis tout le 20e. Et on continue encore
ça
au 21e.
Ça continue, c'est ça, c'est pas fini.
Premier vaccin contre la rage. Deux jours après avoir été mordu par un chien, Joseph Meister, un enfant de 9 ans, se fait administrer le 6 juillet 1885 un vaccin contre la rage. Son inventeur,
Louis
Pasteur.
Pasteur, voilà.
Pasteur hésite avant de lui donner. Je vous prends par surprise.
Oui, non, mais c'est un peu gênant de pas s'en
rendre. Hésite avant de lui donner le traitement préparé avec la moelle d'un lapin atteint par la maladie qu'il a seulement expérimenté sur des animaux. Il injecte à l'enfant des doses durant 10 jours avant de constater une nette amélioration de son état de santé au mois d'août. Les victimes de morsures affluent dès les mois suivants pour recevoir ce qui constituera le premier vaccin contre la rage. Il ne faut pas oublier que beaucoup
C'était mortel, il n'y avait rien à faire. Absolument, absolument. C'était une mort terrible aussi.
Ouais. Là. Mm-hmm. 1895, découverte des rayons X. « J'ai vu ma mort », aurait dit Anna Bertha Röntgen. Sa main venait de servir de sujet pour la première radiographie d'un humain réalisée par son mari, Wilhelm Conrad Röntgen, en 1895. Hormis une bague, seuls les os des doigts apparaissent sur l'image. Quelques jours plus tôt, le physicien venait de découvrir les rayons X capables de passer à travers certaines matières comme la peau et d'imprimer sur une plaque photographique ce qui se cache derrière. Au départ considérés comme une curiosité dans les foires, les rayons X sont rapidement utilisés par le milieu médical pour examiner les os et les organes internes, autrement que lors, évidemment, d'une autopsie. Première administration de l'insuline, en 1922. Leonard Thompson, un jeune diabétique de 14 ans, reçoit la première injection d'insuline le 23 janvier 1922. Les mois précédents, le docteur Frédéric Banting et son équipe de chercheurs de l'Université de Toronto réussissent à extraire et à utiliser cette substance sécrétée par le pancréas afin d'équilibrer le taux de sucre dans le sang. Le diabète, à cette époque, était une maladie mortelle. L'insuline est commercialisée peu de temps après par la compagnie pharmaceutique Lilly & Company et sauvera des millions de vies. 1928, découverte de la pénicilline, qui est le premier antibiotique. De retour de vacances, le biologiste britannique, Alexander Fleming, remarque que l'une de ses cultures bactériennes est contaminée par une moisissure. Cette dernière a anéanti les bactéries autour d'elle. Il découvre ainsi la pénicilline et l'expérimente contre des germes porteurs de maladies. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, des chercheurs britanniques réussissent à la purifier pour des fins thérapeutiques. Le premier antibiotique est distribué sur le front pour lutter contre les infections. Et ça a été souverain d'ailleurs pour la syphilis, pour les maladies vénériennes.
Ah
oui, ça a guéri carrément, ou ça a réglé le problème. Ben, le problème revient aujourd'hui.
Ça doit être un grave problème sur le front.
Ah oui, absolument. Oui. 1934, neurochirurgie épileptique. Au sein de l'Institut neurologique de Montréal, fondé en 1934 à l'Université McGill, Wilder Penfield développe une technique d'anesthésie locale pour traiter l'épilepsie. Il stimule avec des charges électriques différentes zones du cerveau du patient, toujours conscient, à qui il demande d'exprimer ce qu'il sent ou ressent. Le neurochirurgien peut ainsi cibler la zone responsable des crises pour l'enlever, en plus d'identifier celles reliées au langage et à la mémoire, afin d'éviter de les perturber. Au-delà du traitement, sa méthode aide à cartographier le cortex cérébral et les zones fonctionnelles du cerveau. 1936, première description du stress.
Ah oui?
Oui, Hans Selye, chercheur de l'Université McGill, décrit pour la première fois le syndrome général d'adaptation dans la revue Nature en juillet 1936. Ses observations découlent d'expériences à travers lesquelles il soumet des rats à différentes agressions. À tout coup, Il note les mêmes effets sur les glandes surrénales et le thymus. Il baptise plus tard cette réponse, non spécifique du corps, peu importe l'attaque, de stress. Le terme se répand, notamment après la publication du livre « The Stress of Life » en 1956, dans lequel il résume ses découvertes au moment où il dirige l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale de l'Université de Montréal. 1960, grande arrivée sur le marché, commercialisation de la pilule contraceptive.
Ah oui, ça va.
Qui a changé beaucoup,
ça, ça
beaucoup de choses.
Ça n'a peut-être pas sauvé des vies. En fait, peut-être.
Mais ça a changé
les
beaucoup.
Les femmes qui tombaient enceintes et qui en mouraient, ça a prévenu des vies, mais en tout cas, ça a été un grand changement.
Ouais, ouais. Par la combinaison d'œstrogènes et de progestatifs, des chercheurs américains dirigés par le biochimiste Gregory Pincus mettent au point au milieu des années 50 la pilule contraceptive. Après des essais cliniques, pas aux États-Unis et pas au Canada, pas en Europe, mais à Porto Rico.
Ah ben!
Pourquoi Porto Rico, tiens?
Je sais pas. Ouais.
La Food and Drug Administration. Ouais. Ouais, on va toujours tester ces médicaments-là dans des coins, là, tu sais.
Sans se faire remarquer.
Ouais.
C'est ça.
La Food and Drug Administration, FDA, approuve l'Enovid en 1957 afin de traiter des problèmes menstruels, à condition qu'il soit accompagné d'un avertissement selon lequel le médicament supprime l'ovulation. En mai 1960, la compagnie pharmaceutique GD, Searle, obtient de la FDA l'autorisation que la pilule soit finalement vendue comme moyen de contraception. Le Canada emboîte le pas le mois suivant. 1967, première grève du cœur.
Ah oui,
ça, je me souviens.
Ouais. Un homme vit avec le cœur d'une jeune fille greffée dans sa poitrine, titre la presse. Le 4 décembre 1967, le médecin Christian Barnard réalise la première transplantation cardiaque dans un hôpital du Cap en Afrique du Sud. En cette fin d'année, la presse informe ses lecteurs au jour le jour de l'état de santé du patient, Louis Vachansky, dont il annonce finalement la mort le 21 décembre. Il a survécu même pas un mois. Le 30 mai 1968, une équipe de l'Institut de cardiologie de Montréal, dirigée par Pierre Grondin, répète l'exploit. Mais à son tour, il est confronté au décès de ses patients en raison du rejet de l'organe ou des traitements pour empêcher ce rejet. Le développement d'un médicament, la cyclosporine, permet de réaliser l'opération avec succès à partir des années 1980. Est-ce qu'on maintenant, ben, quelqu'un vit avec un cœur greffé longtemps?
Oui, effectivement. Hein? Mais c'est impressionnant quand même qu'ils aient persévéré malgré le fait que... Parce qu'on aurait pu dire ça ne fonctionne pas.
1982, découverte du virus du sida. Évidemment. En 1983, des chercheurs français dirigés par Luc Montagnier identifient le rétrovirus qu'ils baptisent lymphadénopathie associated virus, LAV. Une dispute éclate l'année suivante avec des chercheurs américains, si on s'en rappelle, qui isolent le même virus et le nomment HTL3. Grâce à ces découvertes, les premiers tests de dépistage sont mis en circulation en 1984 et deux ans plus tard, la communauté scientifique s'entend pour le renommer virus de l'immunodéficience humaine HIV. Il y a aussi l'arrivée de la trithérapie en 1996 pour le sida, clonage d'une brebis en 1997.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Séquençage du génome humain en 2004. Vaccin et traitement contre le virus Ebola en 2015. C'est la dernière grande découverte. Il y en a peut-être d'autres, sûrement d'autres qui vont venir. On va en entendre parler.
Ah oui.
Alors voilà.
Merci beaucoup. Et moi aussi, je vous amène dans le passé, en quelque sorte, puisque l'article que je vais partager avec vous, « Les Autochtones du Canada vivent toujours sous un régime d'apartheid », affirme Samian. Eh bien, c'est un article qui a un lien avec le film de François Girard sur l'histoire de Montréal. Oui. Alors, loin d'applaudir les gestes de réconciliation des leaders politiques, Samian parle plutôt d'une grande hypocrisie. C'est un article d'Ismaël Oudacine que j'ai pris sur le site du Huffington Post Québec. Le rappeur et comédien Samian a déclaré en entrevue que les Autochtones du Canada vivaient sous un régime d'apartheid. Alors qu'il interprète un archéologue mohawk dans le nouveau film « Hochelaga, terre des âmes » de François Girard, l'artiste métisse d'origine algonquine dénonce l'iniquité de la loi sur les Indiens encore en vigueur au Canada, au pays. La situation des Autochtones au Canada ne s'améliorera pas tant et aussi longtemps que la loi sur les Indiens ne sera pas abolie, explique Samian en entrevue. Cette loi, promulguée en 1876, met les Premières Nations sous la tutelle d'un pays dont l'objectif est de les assimiler et de les acculturer. Loin d'applaudir les gestes des leaders politiques, comme l'ajout récent d'un pin blanc au drapeau de Montréal pour représenter la contribution des peuples autochtones à l'histoire de la cité, Samian parle plutôt d'une grande hypocrisie. On vit dans le mensonge et le déni. On s'arrête à des petits symboles sans grandes conséquences, alors que la plupart des gens ignorent que l'apartheid en Afrique du Sud a été inspiré de la loi sur les Indiens. Moi, j'avoue que je ne le savais pas. Aucun de nos premiers ministres n'a eu le courage d'abolir cette loi raciste. On a eu Justin Trudeau qui, dans sa campagne électorale, a promis un dialogue de nation à nation. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'a pas fait ses preuves. L'arrivée en 2015 de Justin Trudeau à la tête du gouvernement n'a rien changé, regrette le rappeur, qui ne croit pas à l'honnêteté des discours de réconciliation du premier ministre. C'est de la poudre aux yeux. Le Canada vient de célébrer 150 ans d'histoire à travers la Confédération canadienne et la loi sur les Indiens est toujours active depuis 142 ans. Ça ne prend pas un génie en mathématiques pour comprendre que le génocide culturel est encore à l'œuvre en 2018. Au lieu du mot « réconciliation », Samian lui préfère le terme de « constat ». Les Amérindiens subissent humiliation et négligence. Ils sont chez eux ici, sur leur terre, mais ils n'ont pas de droits. Comme les prisonniers politiques, les Autochtones ont des numéros de bande. Pour le Canada, les membres des Premières Nations ne sont que des numéros. Lorsque le cinéaste François Girard, à qui on doit, je le rappelle, le violon rouge, entre autres,
oui,
lui a proposé d'interpréter le personnage principal du film « Hochelaga, terre des âmes », qui est en salle depuis vendredi dernier, l'artiste engagé a vu une occasion de mettre la réalité autochtone sur le devant de la scène. À la première lecture du scénario, j'ai senti un grand respect et un souci de la véracité historique. François a fait une œuvre sur Montréal, il habite là, il a décidé de faire un film sur sa ville. Ça n'a jamais été pensé comme un projet folklorique et je trouve ça magnifique. Racontant le passé de Montréal à travers cinq époques charnières, Hochelaga, terre des âmes, s'échelonne sur près de 750 ans. Avant l'arrivée du navigateur français Jacques Cartier jusqu'à l'ère moderne, en passant par la révolte des Patriotes, Samian interprète un jeune archéologue aux ascendances Mohawk. Sa découverte du supposé village Hochelaga, sur le site du stade Percival Moulton, plonge le spectateur dans un véritable retour dans le temps. Même si l'on entend plusieurs langues, le film décrit les Premières Nations comme un des peuples fondateurs. Il n'y a pas de barrière. On raconte un récit sans stéréotypes ni clichés. J'avais hâte que quelqu'un fasse enfin un long métrage de cette ampleur. J'espère maintenant que cette œuvre aura une longue vie dans les cinémas et qu'il sera ensuite montré dans les écoles. Alors Serge, vous allez nous poser des questions et tester notre méconnaissance.
Oui, sur les automobiles. Mais
ah, mon Dieu, oui.
Juste un petit retour, je suis estomaqué. La loi dont vous avez parlé aurait servi
en Afrique du Sud, la loi sur l'apartheid.
Ouais, ah ben là, vraiment.
Elle les a inspirés. Ouais, ça donne une idée
c'est
à quel point...
C'est la première fois que j'entends celle-là.
Ben, moi aussi, oui.
Ouais. Mais on la connaît pas tellement, ouais, la loi sur les Indiens non plus.
1800,
on sent que ça nous concerne pas, mais on devrait peut-être justement s'y intéresser. Oui.
Alors, donc, dans la presse du 31 décembre toujours, 118 ans d'automobile. Depuis son apparition dans les rues de Montréal en octobre 1899 jusqu'à aujourd'hui, l'automobile a toujours occupé une place à part dans nos vies. Testez vos connaissances. Alors, Daniel, Isabelle, Jean-Sébastien, vous entrez, tout le monde rentre là-bas. Quel est le nom du premier Montréalais à posséder une automobile? Trois choix de réponse. Raymond Préfontaine, Hucal Henri Dandurand, ou Herbert Samuel Holt.
Monsieur Dandurand.
Oui, moi aussi, j'irai avec Dandurand. Je sais
moi,
pas pourquoi.
Moi, je vais avec Holt.
Ah, ben non, c'est Monsieur Dandurand. Jean-Sébastien, oui.
La presse de quelle date, déjà?
31 décembre.
Et pas de triche dans la salle.
Oui, l'homme d'affaires Hucal Henri Dandurand fut le premier Montréalais à posséder une automobile à Montréal. Acheté aux États-Unis au prix de, risqueriez-vous un montant, 1800...
Oh, aucune idée de la valeur.
800 $?
500 $?
Ben, pas loin, 600.
Ah, ben quoi?
Ouais. Mais c'est une forte somme pour l'époque.
Ben
hein?
Oui, écoute, c'est énorme. Oui.
Sa Waltman, c'est le nom de la Toto, Waltman à vapeur, pouvait parcourir de 120 à 160 km sans faire le plein grâce à ses 6 réservoirs d'eau de 6,5 gallons, donc pas d'essence.
Ah.
Le 21 novembre 1899, il parada fièrement au volant de son véhicule en compagnie du maire de l'époque, Raymond Préfontaine, pour faire une démonstration devant les curieux qui s'étaient déplacés pour l'occasion. Question 2. Née en 1938, cette voiture du peuple, conçue par l'ingénieur Ferdinand Porsche, fracassa des records de vente en 1972. Trois choix de réponse, la Fiat 500, la 4CV de Renault ou la Coccinelle de Volkswagen. La Coccinelle est la première automobile fabriquée par le constructeur allemand Volkswagen. À l'époque, Adolf Hitler souhaitait offrir aux Allemands l'équivalent de la Ford T, c'est-à-dire une voiture bon marché, accessible à tous. Elle a été produite à plus de 21,5 millions d'exemplaires. Question 4. À Washington, à l'événement Transpo 72, la Toyota ESV, qualifiée de « véhicule expérimental de sécurité », présente une technologie innovante. De quoi s'agit-il?
En quelle année vous avez dit?
1972. À l'événement Transpo 72, donc 1972.
Okay.
Donc, de quoi s'agit-il? Pare-brise feuilleté. J'ai aucune idée ce que vous
avez fait. Plusieurs couches.
Plusieurs points. Pare-brise feuilleté. Bon, je viens d'apprendre quelque chose. Ceinture de sécurité ou coussin gonflable?
En 1972. Coussin gonflable, la ceinture, ça existait déjà.
Mais le coussin gonflable, ça fait si longtemps que ça existe.
Il
n'y
en avait peut-être pas à l'époque dans des autos, mais la ceinture de sécurité, il y en avait déjà avant.
Oui, ça, c'est vrai, la ceinture de sécurité.
C'est vrai qu'avant que ça soit commercialisé.
Ouais. Exact, exact.
Donc,
lors de cet événement, Toyota a présenté son modèle ESV, une automobile deux places équipée d'un coussin gonflable.
Wow.
Elle possédait aussi quatre freins à disque avec système anti-blocage, ma chère.
Oh,
bien
de moi.
Quelle est la première voiture 100% électrique commercialisée à grande échelle? La Tesla Model S, la Nissan Leaf ou la Chevrolet Volt?
C'est la Tesla.
La Tesla, vous direz?
Elle a été commercialisée à grande échelle.
Mauvaise réponse.
Moi, j'aurais dit la Volt.
Ah, ouais.
Mauvaise réponse.
Non, mais la Volt n'est pas 100%. Elle est 100% électrique?
La Nissan Leaf.
Ah, c'est la Leaf.
Ah, la Leaf, oui, OK. Oui. Okay, ouais,
Nissan a commencé à commercialiser sa Leaf 100% électrique en 2010. Un nouveau modèle de seconde génération.
Ça fait vraiment pas longtemps, là, quand on pense à ça.
Oui. Un nouveau modèle de seconde génération, la Nissan Leaf 2018, devrait arriver sur le marché canadien début 2018. Dernière question, question 6. En quelle année fut tenu le premier salon de l'auto de Montréal? 1906? 1967 ou 1980?
Écoute,
1906, je pense qu'on peut peut-être...
C'est sûr, c'était assez populaire pour que ça vaille la peine de faire un salon de l'auto?
Je dirais que oui.
En 1906?
C'était, c'était nouveau l'auto, puis c'était
ben, voyons donc, c'est la bonne réponse!
Voilà. Non, non, mais pour le penser
ben, c'est
un
ça,
peu,
c'était un piège. C'était
Daniel connaît les autos quand même.
Quand même, j'étais là.
Ben voyons donc! Hey, là, franchement, j'avais pas regardé la réponse de celle-là.
Non, mais imaginez, l'auto, au début des années 1900, ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur.
Ouais.
C'était normal de faire
puis, ça. Évidemment, il y a une photo, je vais vous la montrer à tout le monde. Regardez, on voit, là, c'est plein d'autos, hein, effectivement.
Oh, wow! Ça, oui, ça a l'air des locomotives de, de train, mais...
Alors, c'est en avril 1906 que s'est tenu le premier salon de l'auto de Montréal. Seule une centaine de véhicules circulent dans les rues de la métropole. Au début du 20e siècle. Mais il y en a déjà 4000 en 1915 et 13000 en 1920. Le salon de l'auto a toujours eu une forte popularité et la presse n'a pas manqué de couvrir cet événement au fil des ans. Et la photo, c'est la salon de l'auto de Montréal en 1914. Non, pas 1906.
On n'est pas celui de 1906.
Alors, on est tous un peu plus connaissants là maintenant.
Merci beaucoup.
Quelque chose que j'ai trouvé dans le journal 24 heures ce matin qui parle de Céline Dion.
Oh.
La tournée asiatique de Céline Dion suscite l'enthousiasme. La demande est telle qu'en Chine, le système de vente de billets a planté quand plus de 300 000 utilisateurs se sont branchés au même moment pour réserver leur place pour ses premiers concerts à Taipei.
Ils auraient dû demander à Alibaba de...
Ben, je sais pas c'est quoi leur système, là, mais d'après le China Times, ce problème est survenu lundi lorsque les 20 000 billets pour les représentations des 11 et 13 juillet au Taipei ont été libérés pour le public. Cet engorgement a paralysé le système pendant 30 minutes, rapporte la publication.
Wow.
Intitulé « Céline Dion Live 2018 », quand même assez original comme titre de tournée.
Ça dit ce que ça dit.
Oui. Cette tournée s'étalera du 26 juin au 23 juillet. Elle s'arrêtera dans 7 villes durant cette tournée asiatique qui prendra son envol le 26 juin au Japon, Tokyo Dome, un stade pourvu de 55 000 sièges.
Bien, merci. On espère que tous les gens réussiront à avoir des billets éventuellement, quitte à devoir se déplacer. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui, le 24 janvier, mercredi. Merci beaucoup à Jean-Sébastien La Liberté, à la mise en onde, Serge Bradet, Daniel Lachance et moi-même, Isabelle Falardeau. On vous dit à la semaine prochaine. Et bien, c'est le quotidien des quotidiens qui suit à l'instant.